les habitants de la France ont réappris deux vérités qu'on oubliait. La première, c'est que nous vivons dans un monde dangereux. Et la deuxième, c'est que la vie humaine est éphémère. Les attentats terroristes, donc, c'est cela qu'on commémore en ce moment. Ces attentats sont de nature anxiogène. C'est le but, hein. Le but d'un attentat, c'est d'inquiéter. Mais en fait, les attentats ne font qu'ajouter à la liste déjà très longue des choses qui suscitent la crainte chez l'être humain. Alors, sommes-nous inquiets au début de cette année, de 2017 ? Humainement parlant, il y aurait de quoi. Mais sommes-nous inquiets? La parole de Dieu parle à notre inquiétude, à nos inquiétudes. Ce matin, j'aimerais vous proposer de revoir, donc, dans ce texte de Marc, comment Jésus s'occupe des craintes. Comment Jésus s'occupe des craintes. Alors, pour cela, je vais vous offrir plusieurs choses. Une sortie en bateau, une promenade au cimetière et un bain de foule. Tout ça au fil d'un texte de Marc qui raconte donc quatre incidents dans la vie du Seigneur. Et à la fin du premier de ces incidents, donc dans Marc 4, à la fin de Marc 4, nous trouvons une question. C'est une question qui est simple, mais qui est tellement importante. Qui est donc cet homme? C'est la question des disciples dans le bateau. Qui est donc cet homme, ce Jésus? Et en réfléchissant à cette histoire de nos craintes, je me dis que notre réponse à cette question-là, qui est donc cet homme pour moi? Ma réponse à cette question va déterminer comment je vivrai les craintes qui m'attendent en 2017. Parce qu'il y en aura. Mais la question est là. Est-ce que je les vivrai avec Jésus et quel Jésus? Est-ce que j'ai une vision de Jésus qui me permet d'aborder cette année nouvelle tranquillement? Marc nous invite, me semble-t-il, à considérer et à croire que Jésus s'occupe de nos craintes. Car s'il y a un fil conducteur dans la partie de l'évangile de Marc que nous allons lire ensemble ce matin, c'est bien celui-là, c'est la grande question de nos craintes et de comment Jésus y répond. Il sera donc question de la crainte des disciples au cœur de la tempête sur le lac. De la crainte d'un démonisé et de ses démons et aussi des habitants de la région qu'il habitait. De la crainte de Jaïrus, dont la fille est à l'article de la mort. Et de la crainte d'une femme qui pourtant a été guérie par un contact avec Jésus. Dans chaque cas, nous verrons Jésus agir souverainement pour apporter la paix à ceux qui la désirent vraiment. Alors dans ces histoires, tout le monde ne trouve pas la paix, mais il y en a beaucoup qui la trouvent. Et ceux qui la trouvent sont ceux qui la désirent vraiment et ceux qui font confiance au Seigneur. Dans le début de Marc 4, vous avez plusieurs paraboles. Jésus donc vient d'enseigner ses disciples par le moyen de ces histoires qu'il a racontées. Et là où nous allons prendre le texte, au verset 35, Jésus passe aux travaux pratiques. Car nous apprenons, bien sûr, par ce que nous entendons, en tout cas, nous apprenons au moins ce que nous retenons de ce que nous entendons, et ce n'est pas toujours tout ce que nous entendons, mais nous intégrons vraiment l'enseignement à travers les expériences que nous vivons avec le Seigneur, par la suite, à la lumière de ce que nous avons entendu, bien sûr, mais les expériences qui nous permettent vraiment de comprendre qui il est pour nous. Donc ce texte décrit quatre situations difficiles. On serait en droit de dire même quatre situations désespérées, dont deux concernent des urgences et deux des états chroniques. Parce que Jésus s'occupe de tout, les urgences et les états chroniques. Nous allons lire ensemble donc dans Marc 4, et je commence au verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Nous allons donc d'abord parler de panique sur le lac. La tempête a dû être d'une violence inhabituelle, me semble-t-il, pour susciter une peur panique, même chez certains disciples qui étaient, après tout, des pêcheurs professionnels, des marins aguerris, qui connaissaient le lac et ses caprices. Jésus ne reproche pas ici à ses disciples de l'avoir réveillé, mais d'avoir paniqué. Faire appel au Seigneur est un bon réflexe. Le Seigneur ne nous reprochera jamais de venir à lui avec nos craintes, de faire appel à lui. Mais désespérer alors que le Maître est là révèle un manque manifeste de foi. Jésus leur reproche donc de s'être montré peureux et de n'avoir pas cru. On peut suggérer que la formulation de cette prière, leur prière, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas !» La façon dont cette prière est formulée révèle une lacune profonde dans leur compréhension de qui est Jésus. Et lorsque nous paniquons au cœur de nos tempêtes, c'est généralement que notre vision du Fils de Dieu rétrécit. C'est généralement que notre vision du Fils de Dieu s'est rétrécie. Et nous pouvons méditer ici avec profit sur l'autorité tranquille de Jésus dans cette situation où les autres étaient complètement déboussolés, perdus, tellement craintifs. Le Seigneur agit avec autorité et tranquillement, le Seigneur ne panique jamais. Et il a autorité sur les événements et sur les phénomènes qui nous inquiètent. Ici, il prononce deux mots et tout se calme. Le vent, la mer. Le Seigneur a autorité sur les phénomènes qui m'inquiètent. Tout est phénomène. Il l'a prouvé ici. Il a aussi prouvé qu'il se soucie toujours de nous. Car il y a quand même un gros problème de dire au Seigneur Jésus, tu ne te soucies pas de moi. Pour nous, il l'a prouvé qu'il se soucie de nous parce qu'il est allé pour nous jusqu'à la croix où il a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Et au pied de cette croix, je ne peux pas lui dire, Seigneur, tu ne te soucies pas de moi. C'est pas possible. Il l'a prouvé et il prouve chaque jour. Il se soucie encore de chacun de nous. Dans cette histoire, il semble que Jésus aurait voulu voir la foi des disciples se manifester comme courage. Alors, la foi se manifeste de différentes façons dans les évangiles, vous l'avez remarqué. D'ailleurs, peut-être plus souvent, ça commence par l'obéissance. Dans les récits des évangiles, va te laver, ou lève-toi et marche. Enfin, il y a un ordre qui est donné et il y a une obéissance qui est attendue. Ici, c'est un petit peu différent. Le Seigneur aurait voulu voir leur foi se manifester comme courage dans la tourmente et comme courage appuyé sur la confiance. Que cet homme se souciait vraiment d'eux et qu'il avait le pouvoir de les délivrer. Et on peut croire que l'expérience vécue ce jour-là, leur expérience, a effectivement fait progresser leur compréhension de la grandeur de Jésus. Et on voit d'ailleurs cette crainte qui se manifeste à la fin de ce que je vous ai lu. Là, c'est la bonne crainte. C'est la crainte respectueuse devant le Seigneur. Et ils ont appris, comme je dois l'apprendre et surtout le réapprendre jour après jour, c'est la crainte du Seigneur qui libère de la peur des événements désagréables et inattendus qui font partie de ma vie. C'est la crainte du Seigneur qui me libère de la peur de ces événements inattendus et désagréables. J'aimerais poursuivre ma lecture donc dans le chapitre 5 de Marc, donc au premier verset. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes, en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla il se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Donc après la panique sur le lac, nous avons des tourments au cimetière. L'homme qui surgit d'entre les tombes ici fait peur. Il inspire la crainte depuis longtemps parmi les habitants de la région. Ils ont bien essayé de le maîtriser, sans succès. Cet homme concentre en lui-même toute une série de craintes. Et la liste serait longue, mais on peut mentionner déjà la crainte de l'inexplicable, la crainte des forces occultes, la crainte de la différence, la crainte du comportement que les gens, entre guillemets, normaux, considèrent comme aberrant. Egbert, dans son commentaire sur Marc, résume ainsi l'état du démonisé de Gérasa. Je le cite. « Il y a décuplement de la force physique, isolement social, attraction morbide, destruction de soi. Et on devine sans mal la détresse personnelle immense de la victime. » Pas vraiment le genre de personne dont nous aimerions avoir à nous occuper. Pourtant, et malgré tout, cet homme est attiré par Jésus. Cet homme est attiré par Jésus. Il accourt, il se prosterne et en même temps, il exprime une crainte profonde. Ne me tourmente pas. On peut soupçonner que tous les exorcistes de la région, amateurs et professionnels, avaient déjà essayé leur art sur lui, sans résultat. Et ces efforts infructueux pour le libérer n'avaient fait qu'accroître ce tourment, et sans doute son désespoir. Et je comprends son cri du cœur un peu dans ce sens de « Ne t'occupe pas de moi si tu n'as pas les moyens de tes prétentions. Ne me déçois pas comme les autres. Ne t'occupe pas de moi si tu n'as pas les moyens de tes prétentions. » Et là, il y a une nouvelle manifestation de cette autorité tranquille de Jésus. Jésus n'a pas de problème avec cet homme-là. Jésus n'a pas peur comme les autres. Et je me dis d'ailleurs que Jésus est sans doute le seul qui ne tremble pas dans ce tableau. Alors les disciples, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ne sont pas mentionnés. Personnellement, je les imagine qu'ils se tenaient à bonne distance, en faisant bien attention de garder Jésus entre eux et le forcené. Ce qui n'était finalement pas si bête. Parce que dans ce genre de situation extrême, il faut que Jésus soit en première ligne. C'est lui qui a le pouvoir. Il faut que Jésus soit en première ligne. Alors faut-il comprendre ici que le Fils de Dieu a négocié avec les esprits mauvais? Voilà la question qui se pose toujours quand on lit ce texte. Est-ce que Jésus leur a fait une fleur en accédant à leur demande? J'en doute fort. J'en doute fort. Les démons craignent d'être, on dirait aujourd'hui, délocalisés, c'est-à-dire éloignés sans ménagement de ce territoire où ils sévissent avec succès, apparemment. Selon Luc, ils redoutaient de se retrouver dans l'abîme. Et Jésus leur permet d'investir un troupeau de porcs. Mais ne me dites pas que Jésus ne savait pas ce qui allait arriver. Et les bêtes trouvent insupportable cette invasion. Et elles s'abîment dans le lac. fin de l'histoire des démons. Permettez-moi de suggérer que le passage par les pourceaux avait surtout pour but d'aider l'homme que Jésus libérait, l'aider à comprendre, je dirais même l'aider à visualiser le fait qu'il avait vraiment été débarrassé de tous ses parasites spirituels. Il a vu les pourceaux se jeter dans le lac et il a pu se dire, ça y est, ils sont partis. Je suis libre. Jésus a rassuré ainsi cet homme. Il lui a apporté la paix. Ensuite surgit une nouvelle crainte qui semble avoir des racines économiques. Pour les habitants du coin, la perte de 2000 porcs est un prix bien trop élevé pour la délivrance d'un seul marginal. Je ne sais pas quel était le cours du porc à l'époque, mais quelle est la valeur d'une âme? Quelle est la valeur d'une âme? Et que le Seigneur nous aide aussi à nous libérer de nos craintes économiques et à mesurer le prix d'une âme et de faire ce qu'il faut pour aller chercher celles qui sont encore perdues. Qu'ont pu apprendre les disciples de cet incident? Deux choses, au moins, que je vous laisse ce matin. Tout d'abord, que Jésus n'attire pas que des personnes bien sous tout rapport et parfaitement équilibrées. Il attire aussi les naufragés de la vie. Et son Église doit être prête à les accueillir. Non pas à les accueillir en faisant croire que l'Église a en elle-même les réponses à tous leurs problèmes, non. Mais à les accueillir avec cette conviction qui doit nous habiter, que Jésus a encore aujourd'hui le pouvoir de délivrer le plus opprimé. Que le Seigneur donc nous aide aussi à retenir cette leçon. Et puis la deuxième leçon qui découle de la première, c'est que Jésus peut faire un disciple du cas le plus désespéré à vue humaine. Nous avons bien trop tendance, il me semble parfois, de dire « Non, mais celui-là, on n'en fera rien. » Que Dieu nous pardonne. Marc dit qu'on a trouvé cet homme assis. Et Luc ajoute « Au pied de Jésus. » C'est la place du disciple, hein? Assis au pied de Jésus. Et d'ailleurs, selon la logique de l'évangile, le Seigneur en fait tout de suite un témoin. C'est comme ça que ça marche. Le cercle vertueux de l'évangile, c'est faire des disciples pour être des témoins, pour faire des disciples, pour être des témoins. Donc le Seigneur en fait un témoin auprès de ses compatriotes. Mais que le Seigneur nous délivre aussi de la crainte des personnes hors normes que parfois il met sur notre chemin, car Jésus attire aussi les naufragés de la vie. Et on termine maintenant notre lecture, donc on reprend au verset 21 du chapitre 5. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment, « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. » À quoi bon importuner encore le maître ? Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant, « Talitha kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Les troisième et quatrième incidents sont imbriqués l'un dans l'autre, hein, vous l'avez remarqué. Nous allons parler donc des deux, d'abord des craintes au cœur de la foule, les craintes de cette femme qui est là. On a la réponse à une requête extrêmement urgente de la part de Jaïrus, qui semble être retardée par le geste d'une femme qui voit en Jésus son dernier recours. Ce sont les genres de situations qu'on n'aime pas avoir à gérer, parce que c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, hein ? À quoi faut-il s'adresser? Mais le Seigneur, lui, n'a pas de problème avec ça. Et s'il n'est jamais en retard, il n'est jamais non plus dépassé par les événements. Et ici encore, il va gérer ces deux situations en parallèle avec cette même autorité tranquille que nous avons déjà remarquée et qui le caractérise. Cette femme anonyme dans la foule n'est pas seulement malade. Elle est atteinte d'une condition qui la rend impure selon les normes de sa religion. Et ça veut dire donc qu'elle est exclue de toute participation au culte d'Israël depuis 12 ans. En désespoir de cause, elle brave toutes les interdictions pour se frayer un chemin jusqu'à Jésus et le toucher. Et le maître y discernera un acte de foi. Le maître y discernera un acte de foi. Et c'est vrai, si je compare, les disciples dans la barque n'ont pas dit, si seulement nous pouvons le réveiller, nous serons sauvés. Ils n'en étaient pas encore là. Mais elle l'a dit, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai guéri. Et Jésus a reconnu sa foi. Alors curieusement, chez cette femme-là, sa crainte se réveille après sa guérison. C'est là qu'elle commence à trembler, car Jésus sait que quelque chose d'important s'est passé. Et il appelle la personne qui a bénéficié de sa bénédiction à se dénoncer publiquement. Puis il attend patiemment que la femme accepte de témoigner, tout simplement. Qui n'a jamais hésité à témoigner d'une bénédiction reçue? Surtout quand cela exige de dévoiler un besoin qu'on avait réussi à cacher. Parce qu'elle n'avait pas du tout envie de dire devant tout le monde de quoi elle avait souffert, comprenez? Ça nous arrive aussi parfois de dire, ah oui, ben, merci Seigneur pour cette délivrance, mais bon, je ne vais pas trop en parler parce que les gens vont savoir comment j'étais avant que tu me touches dans ta grâce. Alors nous nous trouvons toutes sortes d'excuses, n'est-ce pas? Je ne veux pas me mettre en avant. C'est bien. Témoigner, ce n'est pas se mettre en avant. Je suis d'accord. Mais je crois que Jésus nous invite, et un peu à travers l'exemple de cette femme aussi, à dépasser nos craintes pour le mettre en avant, en témoignant des effets de sa bonté dans notre vie, même quand ça coûte. Le Seigneur s'est occupé aussi de la crainte de cette femme. Et on termine par l'angoisse de la mort chez Jaïrus. Jésus n'attire pas que des personnes respectables, je l'ai dit, mais il en attire aussi. Et Jaïrus fait partie de ces personnes-là, mais il a beau occuper une place d'honneur dans la société, il découvre que la crainte de la mort met tout le monde au même niveau. Mettant sa fierté de côté, il fait appel à Jésus et il reprend espoir lorsque le maître accepte de le suivre chez lui pour revoir sa fille. Ça commence bien, son histoire. Mais alors, il y a cet arrêt en chemin. Et j'essaie de me mettre à la place de Jaïrus. Quelqu'un a touché Jésus. À la place de Jaïrus, j'aurais dit, et alors? Et alors, quelle importance! Quelqu'un a touché Jésus. Ma fille se meurt. Mais vous vous rendez compte que de précieuses minutes sont perdues. Encore, du point de vue de Jaïrus, bien sûr. Pas du point de vue du Seigneur. Et la nouvelle arrive. Ta fille est morte. À quoi bon? Imaginez ce qui arrive dans le cœur de Jaïrus à ce moment-là. C'est un peu comme dans le cas de son ami Lazare. Le Seigneur semble tarder ici, mais il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi. Et même devant la mort, il fait preuve de cette autorité. Tranquille, qui n'est pas signe d'indifférence. Qui est signe de sa maîtrise parfaite des événements. Jésus prend tout de suite les choses en main pour dire à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Là, il y a deux choses qui s'opposent et je crois qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut choisir, soit craindre, soit faire confiance. Quand on fait confiance, la crainte peut être vaincue. Et le Seigneur fait des choses extraordinaires, comme ici. Il a rétabli la situation dans cette famille d'une façon extraordinaire. Et à travers Jaïrus, il y a peut-être un chemin qu'il faut retenir, de la crainte à la foi, à la stupéfaction, parce que le Seigneur nous étonnera toujours. Je conclue donc, que faisons-nous de ces craintes qui nous assaillent si facilement, qui parfois menacent même de nous submerger? Si vous êtes comme moi, c'est généralement au milieu de la nuit. On se réveille et puis toutes les choses qui nous embêtent commencent à nous envahir. Et comment je vais faire dans cette situation? Et comment on va faire face à cela? Et comment on va pouvoir aider un tel? Et encore et encore. Et les craintes, nous pouvons les entretenir. Il suffit de les ressasser. Et ça, nous savons faire. Ou alors nous pouvons confesser que nous ne savons pas les gérer. Qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et donc les apporter à Jésus, qui nous a montré qu'il peut s'en occuper, qu'il veut s'en occuper. Comme on dirait à Clermont, il sait y faire. Il sait y faire. Et il se soucie de nous. Il se soucie de toi. De moi. Et il nous demande de le croire ce matin. De croire qu'il se soucie de nous. S'il y a une réalité qui éclate dans ces quatre incidents que nous venons de méditer, c'est que Jésus peut nous délivrer de toutes nos peurs. Mais que pour cela, il nous demande de lui faire un peu plus confiance. Et je crois que c'est chaque jour, un peu plus confiance, chaque jour, dans chaque situation, pour recommencer à placer sa confiance là où on sait qu'elle ne sera pas déçue. En Jésus. En Jésus seul. Nous l'avons chanté. Soumettons donc notre vie, et là aussi je dirais chaque matin, tous les jours, soumettons donc notre vie à son autorité, tranquille, mais souveraine. Et il s'occupera de nos craintes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin pour ta parole. Et nous voulons entendre chacun pour sa part. Prendre pour nous ce que Jésus dit à Jaïrus. Ne crains pas, crois seulement. Seigneur, donne-moi de croire. Donne-moi de croire dans la tempête. Donne-moi de croire dans les situations où je ne comprends pas comment m'en sortir. Devant des personnes qui me déboussolent. Donne-moi de croire, Seigneur, aussi. Devant les situations qui semblent désespérées. Devant ces choses qui, peut-être, dans ma vie dure et que je n'ai pas encore, où je n'ai pas encore vraiment la victoire. Seigneur, donne-nous de croire que tu peux nous délivrer de toutes ces craintes, de toutes ces peurs. Seigneur, donne-nous de te mettre à cette place où tu es celui que nous craignons. Et celui seul que nous craignons. Seigneur, nous voulons plier le genou devant ton autorité et te demander de, encore une fois aujourd'hui et chaque jour, prendre en main notre vie, car tu te soucies de nous. Merci parce que tu t'es soucié de moi, de chacun de nous, jusqu'à aller à la croix pour donner ta vie. Et que tu as prouvé ton amour et que rien ne peut effacer ce qui s'est passé. Quand le Fils de Dieu est mort à ma place. Te bénissons, Père, pour la parole. Nous te demandons que quelque chose puisse aussi rester dans nos cœurs pour nous aider à vivre avec toi et à empêcher notre vision du Fils de Dieu de rétrécir dans la difficulté. Seigneur, ouvre nos yeux sur la grandeur de Jésus pour ta gloire. Amen.